Alors, depuis quelques semaines, les Kurdes de Syrie, des organismes de défense des droits humains et même les Nations unies font pression sur les gouvernements de l'Occident, dont celui du Canada, pour qu'ils rapatrient les ressortissants qui étaient partis donc joindre les rangs de l'État islamique, des gens qui sont détenus sur place, mais aussi leurs jeunes enfants qui sont nés pendant cette période d'exil. Et selon ce qu'on croit comprendre, il y aurait environ une douzaine de Canadiens et de Canadiennes qui sont dans ces camps, mais le gouvernement Trudeau continue de refuser le retour ici. Entre-temps, vous avez les parents de ces jeunes qui ont quitté Montréal 2014-2015, qui vivent donc ce cauchemar. Certains n'ont plus jamais eu de nouvelles de leurs enfants, d'autres oui, mais pendant un certain temps seulement. Fabrice de Pierrebourg est avec nous. Fabrice, vous avez rencontré donc deux de ses parents, deux mères qui nous ont livré un témoignage évidemment extrêmement émouvant et que nous vous présentons ce matin.
Oui, voilà, c'est deux mères qu'on a baptisées Elsa et Anna, on leur a donné un pseudonyme. Je précise qu'on a aussi modifié leur voix, leur demande pour respecter leur souci de confidentialité et vous comprendrez pourquoi après. Contexte, juste rapidement, effectivement, il y a 150 Canadiens, on pense, qui sont partis en Syrie, en Irak, rejoindre l'État islamique, entre autres. Parmi eux, une trentaine de Québécois, garçons et filles. Comme vous l'avez dit, il y en a une douzaine qui sont actuellement probablement incarcérés par les Kurdes au nord de la Syrie. On a souvent abordé dans l'émission le sujet de ces voyageurs extrémistes. C'est comme ça que les appelle la GRC et le SCRS, toujours sous l'aspect sécuritaire et judiciaire. Cette fois-ci, on a voulu le faire sous l'angle vraiment humain, celui de ces parents, de ces jeunes, dont on peut dire que la vie s'est arrêtée un jour de janvier 2015. Alors, pour commencer, on a demandé à Anna et Elsa de faire un retour presque 4 ans en arrière, de nous raconter les derniers moments avec leurs filles respectives.
On a vu rien venir. On s'attendait pas qu'elle parte. On n'a rien remarqué, aucun changement sur son comportement. Elle était toujours toute gaie, toute contente. Quand elle rentre à la maison, ça fait la joie de, ça fait notre joie à la maison, ça comble la maison. Elle nous parlait de partir en vacances au lac pour passer des journées. On s'est dit que c'est bon pour elle, elle va se détendre après une session vraiment trop chargée. Elle était trop bonne à l'école, très bien éduquée. Je ne sais pas comment ils ont pu leur mettre ces idées en tête. Ils sont partis. On s'est réveillé le samedi, on n'a pas vu notre fille. Elle était au lac, c'était correct. Puis elle nous les a écrit le lundi. C'était un texto où on nous a dit « Maman, je suis en Syrie pour aider les petits-enfants. » Je ne savais pas quoi dire. Puis on restait toutes émues. J'avais mon mari qui a vraiment reçu le coup, puis a réagi plus vite que moi, parce que moi je suis restée comme... Je ne savais pas quoi faire. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passe.
Elsa, vous... Qu'est-ce que vous vous souvenez, pareil, la dernière fois où vous avez vu votre fille, puis comment vous avez su qu'elle était en Syrie?
À vrai dire, c'est le même choc. C'était un vendredi. On s'est dit chacune de parce que moi je vais partir en travail. Et elle m'a dit voilà bonne journée comme d'habitude. C'était la dernière journée. On s'est quitté vers peut-être vers 9h30 parce que moi je sors pour prendre l'autobus. Et l'après-midi, le soir, quand on est rentré, on attendait ma fille, tout le monde, sa sœur, toute la famille, mais elle n'est pas là. Et après, ma fille, sa grande sœur, elle a eu un texto de son amie comme quoi elle va passer la nuit chez elle. On s'est dit, c'est pas grave, elle va changer les idées. Le lendemain, tout le monde attendait ma notre fille, mais elle n'est pas là encore. Je commence à paniquer, je commence parce que c'est la première fois qu'est arrivée. Parce que moi je connais l'autre parent. Là il m'a appelé, il m'a dit voilà qu'est-ce qui s'est passé. Là c'était le vrai choc.
Bon, évidemment, on peut comprendre le choc de ces deux mères. Est-ce qu'on sait ce que les deux filles sont devenues? qu'est-ce qu'elles ont fait là-bas? Est-ce qu'elles donnent encore de leurs nouvelles de temps en temps?
Alors, il faut savoir que ça a été une véritable course contre la montre. Dès que ces mères ont reçu ces textos-là de leurs enfants, évidemment, ils ont appelé la police, rencontre avec le SPVM, rencontre avec la GRC. Et très vite, elles se sont rendues compte qu'elles étaient en Turquie dans les jours qui ont suivi ces textos-là. Donc, elles ont pensé qu'on aurait pu les géolocaliser avec les textos. Elles ont fait appel aux autorités, elles ont remué ciel et terre. Malheureusement, on n'a rien pu faire, on les a échappés comme ça. Il y a même des parents, Paul, qui sont partis en Turquie pour essayer de retrouver certaines de ces enfants. Il faut savoir qu'ils étaient environ 8-9 à être partis ensemble en janvier 2015. Depuis, Anna et Elsa ont eu des nouvelles après assez régulièrement par texto, mais Anna, ça s'est arrêté à l'été 2017 lors de la chute de Mossoul. Elle a compris que sa fille qui avait eu une petite fille depuis, était à Mossoul, dans le dernier réduit des djihadistes. Puis moi, Paul, quand je suis allé en mars dernier, j'ai essayé de la retrouver, sa fille. J'avais une photo de la fille, la petite fille. Malheureusement, c'était un des quartiers dont on a parlé, le quartier de Medan, qui était réduit vraiment à l'état de ruine. Il n'y avait plus personne là et on n'a aucune nouvelle d'elle. Elsa, elle, des nouvelles plus récentes encore, mais elle sent qu'elle n'est pas libre de ses mouvements. Elle ne sait pas où elle est. Elle pense que sa fille veut rentrer, mais qu'elle n'y arrive pas. Peut-être, est-ce qu'elle est retenue contre son gré? Est-ce qu'elle a plus de passeport? C'est difficile de savoir.
Mon Dieu, j'ai l'impression des fois derrière ces messages, c'est à la peur. J'ai l'impression que tout le temps il y a quelqu'un derrière elle, parce que il y a des messages où vraiment c'est le manque de famille, c'est le papa, le frère, la sœur. Oui, c'est j'ai l'impression elle veut revenir, oui, parce que c'est.
Mais elle a peur.
Vous, dans votre esprit, si elle était libre de ses mouvements, elle serait peut-être déjà à Montréal.
Oui. Ah oui. Parce que quand même, elle m'a demandé une somme d'argent que j'ai l'impression qu'elle veut. Elle veut retourner. C'est ça. Avant, il nous disait que on préparait le retour des jeunes. Vraiment, c'était un espoir pour nous. Il préparait le retour. Voilà, les psychologues, tout ça. Mais hop, tout à coup, tout a changé. Ils sont partis à Ottawa pour se renseigner. On s'est rencontrés avec eux. Voilà, c'est la mauvaise nouvelle qu'ils nous disent qu'ils peuvent pas les faire retourner.
Bon, là on comprend évidemment que c'est assez complexe, mais en même temps, si on revient à la motivation de départ, on connaît la capacité assez extraordinaire de l'État islamique au niveau de la propagande puis du recrutement. Alors sur le web, bien sûr, mais est-ce que les deux mères pensent que des gens ici à Montréal ont joué un rôle important pour les influencer et donc les amener à partir faire le djihad?
Et c'est la question, Paul. C'est la question qu'on se pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des agents de radicalisation ici à Montréal ou ailleurs au Québec qui indirectement auraient pu inciter ces jeunes bien intégrés, bien éduqués, bons élèves à partir? Des jeunes, je vous l'assure, j'ai étudié leurs profils qui sont aux antipodes de l'image qu'on se fait d'habitude des djihadistes. Certains parents, en 2015, faut se rappeler, ont publiquement accusé l'imam Charkaoui d'avoir, je le cite pour un des pères, semé la haine dans le cœur de leurs enfants. Il y en avait un autre qui avait retiré même son fils d'un des cours de l'imam en question. C'est un sujet qui a été effleuré aussi publiquement lors de deux procès pour terrorisme ici à Montréal, dont celui d'Ismaël Habib. J'ai posé la question au maire plusieurs fois, elle marche vraiment sur des œufs lorsque j'ai voulu creuser ce sujet-là. Elles disent que la police a cherché bien sûr à identifier un ou des complices éventuels locaux qui auraient pu endoctriner selon elles tous ces jeunes et qui, elles le disent, à leurs yeux, sont beaucoup plus dangereux que leurs enfants, que l'opinion publique ou le gouvernement ne veut pas rapatrier si jamais on les trouvait, quoi.
Ils ont pris une lourde décision sans l'avis de leurs parents, parce que quand tu élèves un enfant, tu mets un enfant au monde, c'est pour bien l'éduquer, c'est pour lui montrer les bonnes choses. C'est nos enfants à 18 ans, ils ont pris ces décisions s'il y a quelqu'un derrière eux. C'est pour cela que je vous demande là, est-ce que vous avez peur de ces enfants qui sont passés et vous n'avez pas peur des gens qui les ont endoctrinés, puis ils sont là encore pour faire endoctriner d'autres enfants et les envoyer aussi. La sécurité, c'est si le Canada a peur de sa sécurité, on fait revenir les enfants qui sont partis. Ils les ont manipulés ici.
Ben, regardez, nous, parce que on n'a jamais eu par exemple, ma fille, là, elle m'a jamais dit que, elle parle pas de la politique, elle parle pas Elle était avec ses études. Elle avait un avenir. Moi, elle avait un avenir. Elle veut faire un médecin. Elle veut aider. Elle veut travailler. Mais j'ai jamais eu le moindre doute que un jour elle va partir comme ça.
Bon, est-ce que ces deux femmes, ces deux mères reçoivent des appuis, du soutien, ou si elles sont laissées à elles-mêmes?
Ben, c'est un peu ça le problème, Paul, c'est que moi, la meilleure image que je peux dire, c'est qu'ils ont, ses parents ont tout quitté souvent pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants au Québec. Ils se retrouvent à la fois dans la peau des parents de criminels qui se font regarder de travers. Ils doivent vivre avec le fardeau de la culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai raté quelque chose dans l'éducation des enfants? Qu'est-ce que j'ai pas pu faire? Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mais aussi dans la peau d'enfants disparus, de parents d'enfants disparus, qui attendent toujours en vain le retour. Ils savent pas si leur enfant est mort ou vivant. Ils pensent qu'il reviendra au jour. Il y en a même certains qui laissent encore la chambre intacte pour ce grand jour-là. Et effectivement, ils n'ont aucun soutien, ni des autorités, ni de la population.
C'est difficile pour nous, parce qu'on est délaissé. On est délaissé par nos amis, on est délaissé par la société, on est délaissé par tout le monde. On a une étiquette qu'on est des parents des terroristes. Est-ce qu'il y a un parent qui va mettre quelqu'un au monde puis lui dire « Allez, vas-y, tu attaques, tu dois être un terroriste ». Je ne pense pas qu'il y ait un parent au monde qui va mettre un enfant puis l'engager dans le terrorisme. Jamais, jamais depuis 4 ans, on a fait une nuit au complet sans qu'on se réveille puis on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourquoi on vit tout ça? Pourquoi on est tellement malheureux? Pourquoi notre maison est toute détruite? On n'a plus de vie, on n'a plus de vie.
Bon, est-ce qu'il y a quand même un espoir pour ces familles de revoir leurs enfants et leurs petits-enfants?
Paul, le rapatriement ou non des djihadistes, des femmes de djihadistes et de leurs enfants est un débat, on le sait, hyper passionné, polarisé, ici comme en Europe.
Souvent parce que les gens se disent, pourquoi ramener au pays des gens qui sont partis commettre des actes de terrorisme
à
l'étranger?
C'est ça. Moi, j'entends souvent des commentaires, ils sont partis, ils ont rejoint un groupe terroriste, ils ont déchiré leur passeport, on le voit des fois, même qu'ils restent là-bas, on veut pas de ce genre-là chez nous. Les gouvernements en ont peur parce que c'est un débat politique, ils ont peur d'être accusés de plein de choses, donc surtout en période électorale. La France a accepté récemment de récupérer uniquement les enfants des djihadistes qui sont incarcérés en Syrie. On sait qu'en Irak, ces jeunes-là risquent la peine de mort. Le Canada avait entrepris des démarches, Elsa l'a dit un peu au début, avec les Kurdes pour faire revenir la douzaine d'hommes, femmes et enfants, dont des Montréalaises, qui sont entre leurs mains. Elles avaient averti les parents, puis finalement, au dernier moment, il y a moins d'un mois, ils ont renoncé. Alors aujourd'hui, ces parents interpellent le Premier ministre, mais aussi la population canadienne.
Nos enfants n'ont pas choisi. Nos enfants ont subi. J'aimerais bien comprendre pourquoi ils ne veulent pas les faire rentrer. Est-ce que vous avez peur de cette poignée de jeunes victimes qui avaient un avenir prometteur, qui sont partis vers le mystère? Ou peut-être vous voulez les punir encore et doublement avec leurs enfants parce qu'ils les ont endoctrinés et jetés en Syrie? Ou parce qu'ils sont des Canadiens de deuxième classe? Ça, je ne le sais pas. Je parle aux parents, au Premier ministre, et à toutes les âmes sensibles. Est-ce que c'est humain de les laisser avec leurs petits dans la famine, le froid, la destruction, avec l'approche des fêtes de Noël? C'est cruel. C'est cruel ce qui se passe. On a des petits-enfants. Le Canada aide les petits-enfants. Est-ce qu'eux, ils ont le droit à cette aide-là? Est-ce qu'ils sont des enfants comme tous les enfants du monde entier? Je suis là pour représenter mon enfant, mon bébé, parce que pour moi, elle est toujours mon bébé, mon enfant. Je veux que vous l'aidiez. Je veux que cette torture quotidienne prenne fin. Est-ce qu'ils sont vivants? Cherchez-les. Je n'ai pas vu les 19 ans de mon enfant, ni ses 20 ans, ni ses 21 ans. Monsieur Justin Trudeau, on a mal aidé nous. Pourquoi les bébés restent encore là-bas? Combien on doit encore attendre? Est-ce qu'on peut attendre encore 1 an, 10 ans? Ça n'en finit pas. On a trop mal. Monsieur le Premier ministre, une partie de cette société souffre. Mettez-vous à nos places, au moins pour un soir.
Je précise, Paul, que ses parents sont d'accord pour que leur enfant soit enquêté à leur retour, ici, jugé s'ils ont commis des crimes et éventuellement incarcéré. Mais encore une fois, ici, au Canada, pas en Syrie, entre les mains de groupes paramilitaires, ou en Irak, où ils risqueraient la peine de mort.
Merci beaucoup, Fabrice. On va faire la pause tout de suite, 9h39, et on revient après avec notre sujet de tribune téléphonique de ce jeudi matin.